Bonjour mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année et je voudrais que nous fassions une lecture dans Romains chapitre 12 et verset 3. Romains chapitre 12 et verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je prie Dieu que vous compreniez la portée prophétique de ce message aujourd'hui. On est arrivé à la fin de 2011, c'est ma dernière prédication de cette année, et je crois de tout mon cœur que le conseil que j'ai reçu de Camélia, cette vieille gitane, au début de ma vie chrétienne, est de plus en plus d'actualité. Camélia, c'était vraiment une sainte femme de Dieu. C'est la maman de Violette, qui est elle-même la femme de Raphaël, l'homme qui m'a amené à Dieu. Cette femme était une femme de prière. Elle puisait sa sagesse dans les moments de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Elle ne savait pas lire, mais chaque fois qu'elle trouvait quelqu'un qui savait lire, elle lui disait « Lis-moi un passage des Écritures. » Elle puisait sa sagesse dans la prière et dans les Écritures. Et un jour de juin 1969, je me vois toujours, nous étions à Ouchy et nous étions arrêtés à un feu pour les piétons. Nous étions donc d'un côté d'un trottoir pour traverser de l'autre côté et tout à coup, elle m'a regardé, elle m'a dit « Michel, Dieu t'a beaucoup donné. » Alors fais attention, n'oublie pas, reste simple devant la face de Dieu. Et ça m'a marqué, et depuis bien des années se sont écoulées, et je peux rendre témoignage que cette parole prophétique m'a toujours aidé à rester dans la modestie. Maintenant, il faut encore savoir ce que ça veut dire la modestie. J'en suis venu à comprendre que le fait d'être conscient de ses limites, c'est le privilège des gens forts. Je répète, j'en suis venu à comprendre que le fait d'être conscient de ses limites, c'est le privilège de ceux qui sont forts. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas une chose que Dieu brandit sous votre nez pour vous faire la morale. L'humilité, la modestie sont des attributs intérieurs et Dieu nous demande de les manifester et encore plus que jamais dans l'année qui vient, en 2012, plus que jamais, nous sommes invités comme une invitation obligatoire, sérieuse, invités par notre Dieu à manifester ses attitudes, l'humilité, la modestie. L'homme sur la terre est le seul, enfin quand je dis l'homme, la femme aussi, l'être humain, c'est le seul être qui n'observe pas instinctivement les bonnes lois de la nature que Dieu a créée. Pour l'homme, il lui faut une éducation, il lui faut de l'instruction pour qu'il puisse enfin arriver à comprendre les lois de la nature. Ce n'est pas instinctif. Et pour que 2012 soit une année où cette... vous savez, il y a une loi qui est universelle, que Dieu désire que nous pratiquions. Et pour 2012, il faut que cette loi universelle soit pratiquée. Quelle loi, me direz-vous? La nature, elle tend toujours à remplir ce qui est vide et à diminuer ce qui est en excès. Voilà, ça c'est une grande loi de la nature. Et on doit apprendre, en considérant la sagesse de Dieu dans ses œuvres, dans sa création, on doit apprendre en observant la nature, en observant les choses qui se passent dans la nature autour de nous, pour pouvoir apprendre, et particulièrement cette loi de la nature qui est universelle et que Dieu me met à cœur de vous donner aujourd'hui pour 2012, la nature tend toujours à remplir ce qui est vide et à diminuer ce qui est en excès. Au fond, ce qu'on attend d'un disciple de Jésus, mes frères et sœurs, c'est qu'il sache égaliser, disons, harmoniser son comportement avec ce qui se passe à l'extérieur de lui. Alors, être humble, c'est quoi ? Eh bien, c'est savoir se tenir à l'intérieur du cadre que Dieu nous a donné. Et ce cadre, il n'y a que Dieu qui peut le faire grandir ou le faire rétrécir. De temps en temps, notre cadre s'agrandit. Alors voilà, c'est des moments d'exaltation, c'est formidable. Mais des moments où Dieu rétrécit le cadre. Ah, c'est Dieu qui fait toute chose. Et il utilise pour cela ce que nous appelons les circonstances. Alors évidemment, on est toujours, quand une mauvaise circonstance, quelque chose de négatif, on prie pour que Dieu nous en délivre. Mais nous n'apprendrons jamais rien si Dieu nous délivre de toutes nos difficultés, de toutes les circonstances difficiles, comme si nous étions des petits gamins qui crions tout le temps, jusqu'à ce que Dieu, finalement, il nous donne ce qu'on veut, puis voilà. En 2012, mes frères et sœurs, il y aura des moments où il vaudra mieux faire le dos rond, comme on dit, hein, faire le dos rond. Et puis à d'autres moments, où il ne faudra pas hésiter à se manifester avec énergie, et même des fois avec sévérité. Vous voyez, être humble, ça exige de nous que nous soyons sûrs de nous-mêmes. Alors évidemment, ça peut paraître bizarre. Quelqu'un qui est sûr de lui-même, on aurait plutôt tendance à penser qu'il n'est pas humble. Et bien, c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Parce que comment savoir s'il faut faire le dos rond ou agir énergiquement dans telle ou telle situation? Pour le savoir, il faut être sûr de soi. Par exemple, vous avez tous des talents. Eh bien, vous devez avoir une idée précise de votre valeur en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. L'humilité, c'est savoir, voilà, j'ai ça, et j'agis dans tel et tel cadre. En être sûr. Quand vous êtes certain de votre réelle valeur, vous n'avez pas besoin d'en rajouter pour impressionner les autres. Si vous évitez de souligner votre valeur, elle sera plus facilement acceptée par les autres. Quant à vos lacunes, eh bien c'est inutile de les cacher. Il vaut mieux travailler à les combler, c'est-à-dire à arranger les choses. Pas essayer de jouer à quelqu'un que vous n'êtes pas. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui a vraiment de la valeur. Bien sûr, notre parole a aussi de la valeur. Mais quand nous parlons, eh bien, on est souvent en train de perdre quelque chose de notre perception du monde d'extérieur. Cette perception du monde extérieur diminue quand on parle parce que on entend le son de notre voix, on entend ce qu'on dit. Il vaut mieux se remplir de la connaissance de la parole de Dieu que de dire tout ce qui nous passe par la tête et des « moi je pense que » et ceci. Ça c'est de l'orgueil, c'est pas de l'humilité. En écoutant ce que Dieu dit, alors on peut devenir de bons observateurs et alors nous sommes à même de mieux ressentir ce qui est en train de se passer autour de nous, de ne pas se plaindre quand le cadre est en train de se rétrécir. Mais au contraire, d'agir en conséquence. En faisant soit le dos rond, soit en agissant avec énergie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se taire, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que Dieu veut que nous apprenions et que nous vivions plus en 2012, c'est ce savant dosage de la fermeté dans le Seigneur et de la souplesse aussi dans le Seigneur. La Bible nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie, il se construit. C'est à l'intérieur, il se construit. Pourquoi ? Afin de pouvoir s'affirmer à l'extérieur, s'affirmer devant l'extérieur, manifester ce que nous sommes à l'intérieur, devant tout le monde, devant pas seulement les gens, mais aussi devant les démons, devant les anges. Celui qui se construit à l'intérieur, il le fait pour pouvoir se manifester et affirmer, s'affirmer dans sa relation avec le dehors. Vous voyez, se tenir dans l'harmonie, dans l'humilité, ça ne consiste pas à un abaissement volontaire par un sentiment de faiblesse. Oh, moi, vous savez, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. Ça, c'est des vieilles chansons. Il faut arrêter cette espèce d'humilité à la noix de coco. C'est pas ça ce que Dieu nous demande. Se tenir dans l'harmonie, dans l'humilité, consiste en une maîtrise calme et solide qui permet de de réagir avec souplesse, efficacement, aux sollicitations de l'extérieur. Être humble, ne pas avoir de soi-même une opinion trop élevée, c'est en arriver à être souple, comme le roseau qui se plie, afin de se redresser avec force. Casse pas. Il se plie quand il faut et il se relève. Voyez, mes frères et sœurs, tenir notre être intérieur ne se limite pas à notre vie intérieure, mais sans cette vie intérieure, sans cette maîtrise intérieure, ça va être difficile d'avoir des actions énergiques, ça va être difficile de réaliser, ça va être difficile même de peiner, de travailler durant 2012. Ça va être difficile. Il faut avoir cette plénitude intérieure, tenir notre être intérieur en communion avec Dieu. Je vous le dis, mes frères et sœurs, si vous écoutez ce conseil que je vous donne de la part du Seigneur aujourd'hui, tout vous sera profitable cette année. Même les choses difficiles, même les rétrécissements de cadre, même les problèmes, tout vous sera profitable. Vous êtes, en fait, nous sommes appelés à être des maîtres. Mais pour être des maîtres, il faut être des disciples accomplis. Et le disciple l'est dans son cœur. Il se fortifie en lui-même, en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec Dieu, avec les frères et sœurs, avec Dieu qui vit dans les frères et sœurs, avec toute cette nuée de témoins qui nous entoure. Et puis ensuite, il exprime sa vraie force à l'extérieur. Mais s'il n'y a pas cette richesse intérieure, eh bien, il va être comme la cigale qui se trouva fort dépourvue quand l'hiver fut venu. C'est l'état de notre monde aujourd'hui. Votre être intérieur, il est comme le jardin d'Éden. Vous savez, là où Dieu avait placé Adam. Adam, il avait été créé en dehors du jardin, et puis il était mis dans le jardin, dans un endroit clos, un cadre, pour le cultiver et le garder, c'est-à-dire le protéger. Vous devez protéger votre territoire intérieur, et ça peut être pénible. Il faut consolider les endroits, il y a des ronces à enlever. Et ça n'est pas un jeu. Ça n'est pas un jeu parce que dehors, il n'y a pas que les gens que vous trouvez désagréables, il y a toutes sortes d'esprits. Dans la communauté, au sanctuary, nous sommes une gerbe. Et toutes les tiges sont liées ensemble. Et les fruits que chaque tige porte doivent être à la gloire de Dieu. Alors, nous devons veiller les uns sur les autres, c'est vrai, mais c'est quand même à chacun d'entre nous d'entretenir sa propre vie intérieure pour pouvoir porter du fruit qui va en harmonie avec la gerbe en entier. Si nous avons une gerbe de blé et puis que tout d'un coup il y a de l'ivraie dedans, ou si nous avons une gerbe de blé et puis qu'il y a des poireaux avec, ça ne va pas. Dieu attend de nous quelque chose de précis. Et c'est à chacun de nous, personnellement, qui devons faire tous nos efforts pour entretenir notre propre vie intérieure. Alors évidemment, de temps en temps, on peut se reprendre, se corriger les uns les autres afin d'aider les uns les autres. Mais ce qu'il faut, c'est que la communauté soit une gerbe féconde. Alors chacun devra être lucide. Pour que la gerbe soit féconde, il faudra que chacun soit lucide. Il faudra que chacun manifeste du courage, de la ténacité, dans la modestie. En fait, c'est ça être un vrai disciple accompli. Et vous, qui n'êtes pas de la communauté du sanctuary, vous êtes dans une église, vous êtes dans un groupe, c'est la même chose. Et de toute façon, l'église est aussi une gerbe, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 12, il est question d'un, je crois que c'est Apocalypse 12, il est question d'un fils mâle. Et dans d'autres traductions, c'est pas écrit fils mâle, mais c'est écrit fils énergique. Oui, c'est ça, chapitre 12, verset 5. Eh bien, être un disciple accompli, c'est être ce fils énergique d'Apocalypse 12, 5, qui œuvre en fonction du but qui a été déterminé par Dieu. Seul ce fils énergique sera enlevé. Lisez le texte. Lisez le texte. Chacun de nous, en 2012, devra être souple et solide. Chacun devra avancer sans se relâcher, avec discernement, sachant tenir dans les moments difficiles, soit en se pliant, soit en luttant énergiquement, ça va dépendre des circonstances, des moments, comment Dieu va vous inspirer. Mais c'est une période de transition. Et nous aurons à être veillants, veillants, pour franchir le dernier pas, pour atteindre l'autre rive. C'est là, n'est-ce pas, l'autre rive. C'est là où on tend tous, n'est-ce pas? Vous savez, mes frères et sœurs, un disciple accompli ne se trompe pas sur ses réelles capacités et il ne fuit pas devant l'effort. Le disciple accompli, il ne présume pas non plus de ses forces. Et c'est ça qui lui permet de mener à bien ce qu'il veut accomplir. Il faut connaître nos limites, connaître nos capacités. Il faut savoir qui nous sommes. Et mes frères et sœurs, il faut que vous arriviez à tenir fermement à ce que vous faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous-en fermement à cela. Ne vous dispersez pas dans des détails, dans toutes sortes de projets, toutes sortes de trucs. Non, 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 non. Consacrez-vous à ce que Dieu attend de vous. Ne dites pas, oh, mais je ne sais pas quel vide combler. Ou bien ne dites pas, oh, je ne sais pas quel excès je dois diminuer. Non, 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 non. La nature elle-même, c'est l'eau n'est pas obligée de prier pour savoir si elle descend ou si elle monte. Elle va toujours en bas. Tout le monde sait où il a un déséquilibre dans sa propre vie. Tout le monde. Tout le monde sait où se trouve le manque d'harmonie, le manque de cohérence dans sa propre vie. Et en cette fin d'année 2011, je prie que vous vous engagiez dès à présent à aller de l'avant avec la vaillance que donne le Saint-Esprit aux gens qui lui font confiance. Jésus-Christ est notre maître absolu. Et c'est une invitation qui nous fait, une invitation obligatoire, mes frères et sœurs. Vous devez regarder plus loin que les circonstances immédiates. Vous ne devez pas céder à l'ennemi, être surpris par votre ennemi. Vous devez résolument franchir ce fleuve pour entrer en possession de votre territoire promis. Il faut le faire. J'ai lu qu'autrefois, les cow-boys là-bas aux États-Unis, je ne sais pas si je l'ai lu ou si j'ai vu ça dans un reportage, je ne me rappelle plus, mais quand un cow-boy approchait d'un ranch, il devait signaler sa présence en faisant du bruit, afin que tous sachent qu'il arrive. Parce que ça aurait pu être un danger, enfin je ne sais pas, ou il fallait qu'il manifeste qui il était, manifester sa présence. Eh bien mes frères et sœurs, on est toujours en train de prier la présence de Dieu, la présence, mais Dieu est toujours présent. Mais le Seigneur nous invite, nous autres aujourd'hui, en ce dernier vendredi de l'année 2011, à manifester notre présence. Au début de chaque journée, en déclarant qui nous sommes à toutes les puissances spirituelles. Savez-vous que les anges ont besoin de signes visibles pour savoir de quelle autorité vous dépendez? Lisez 1 Corinthiens 11, 10, vous verrez. Nous ne devons pas nous cacher, ce n'est pas ça la vraie humilité. Nous devons manifester que Jésus-Christ est notre Seigneur, le nôtre à moi, c'est mon Seigneur à moi. C'est plus encore que mon Sauveur, c'est mon Seigneur. Il ne pourrait pas être mon Seigneur s'il n'était pas mon Sauveur. Mais maintenant qu'il a été mon Sauveur manifesté, alors je l'ai couronné Seigneur de ma vie. et toutes les autorités célestes, les bonnes autant que les mauvaises, elles doivent vous voir, elles doivent vous entendre manifester qui est l'autorité à laquelle vous êtes soumis. Tout le monde sait que la crise est mondiale. Quand on le prophétisait dans les années 60, on se moquait de nous. Maintenant, on n'est même plus obligé de le prophétiser. C'est là, hein? C'est arrivé, c'est là. Tout le monde sait qu'il y a une crise mondiale. On sait aussi qu'il va y avoir un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, et voilà. Et nous autres, fils et filles du Créateur de ce monde, nous avons à nous manifester comme étant soumis à Jésus-Christ au milieu de cette crise, au milieu de ces bouleversements. La terre est bouleversée, la terre est ébranlée, et elle le sera encore davantage, mes frères et sœurs. C'est pourquoi notre consécration doit être plus grande que jamais. Et se consacrer à Dieu, c'est faire preuve d'humilité. Cette humilité qui reconnaît la vraie valeur de ce que nous sommes, de ce que nous avons personnellement en tant qu'Église biblique, en tant que membre du corps de Christ. Cette humilité ressemble à de l'orgueil aux yeux des gens charnels, mais c'est de l'humilité. Nos esprits doivent être en éveil parce que la terre est ébranlée, et la terre est ébranlée parce que le ciel est ébranlé. Les influences du monde céleste mauvais sont déchaînées. Vous savez bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans les lieux célestes. Et ils sont déchaînés. Et c'est ça qui provoque la crise que le monde entier ressent. Nous sommes sous le quatrième sceau. Le cheval sombre est sorti. Hein, on va le lire. Apocalypse 6, le quatrième sceau. Quand il ouvrit le quatrième sceau, c'est ça, c'est là où nous en sommes. J'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Alors Jean, viens et regarde. Et je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez, c'est là où nous en sommes exactement. Les puissances célestes, toutes ces puissances-là, infernales, mauvaises, sont déchaînées, c'est-à-dire la porte même du séjour des morts a été ouverte, et le séjour des morts rôde sur la terre à l'heure actuelle. C'est pourquoi il se passe tout ce qui se passe, et qu'on voit et qu'on entend tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est quelque chose de spirituel, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de spirituel. Et ce texte de Jean sur le quatrième sceau, Jésus en parlait déjà dans Matthieu au chapitre 24, versets 9 à 14. Ça, c'est notre époque. C'est notre époque. Écoutez ce qu'il dit sur notre époque. Alors, versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, Jésus est en train de parler à des juifs quand il dit ça. Eh bien, c'est pendant le temps là, c'est à notre époque que les juifs ont été pris en haine par toutes les nations à cause du nom de Jésus. Le monde entier est contre eux. Dites qui vous êtes, dites que vous aimez Israël, dites que vous priez pour la paix de Jérusalem, dites de quel côté vous êtes. Boycottez France Inter. Alors, Jésus dit, alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et ça, il ne va pas me dire qu'il n'y a pas beaucoup de faux prophètes à notre époque, c'est infernal. Ça pullule de partout. Ces prophètes de l'abondance, ces prophètes de pacotis, de machins, patin couffin, de réunions d'émotions et compagnie. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ensuite Jésus continue en disant, et parce que l'iniquité se sera accrue, ou l'illégalité si vous voulez, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Eh bien, c'est ce que nous vivons là maintenant. Et ensuite, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Mais nous, les chrétiens, nés de nouveau, qui se seront sanctifiés, nous ne verrons pas l'abomination de la désolation établie en lieu saint, parce que nous aurons été enlevés. Mais d'autres, les chrétiens qui n'auront pas marché correctement avec Dieu, eh bien, ils verront cela. Vous voyez, quand on lit Apocalypse 6, vous avez le premier sceau, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième, et tout au long de ces quatre sceaux, vous avez un des quatre êtres vivants qui est auprès du trône de Dieu, qui influence, qui donne une influence spirituelle bénéfique. Mais à partir du cinquième sceau, il n'y a plus. Il n'y a plus ces êtres vivants-là. Pourquoi ? Parce que l'épouse aura été enlevée, ça sera la grande tribulation, et c'est pour maintenant. Je ne suis pas en train de vous prophétiser que ça sera dans 30 ans. Non, non. C'est maintenant. Et c'est ce qui est là, ce que je viens de vous lire là, c'est ce qui provoque cette crise dans le monde aujourd'hui. C'est spirituel. Et il n'y a que nous, les disciples de Jésus, qui sondons les Écritures, qui pouvons savoir ces choses-là. Alors, ne quittons pas notre position en Jésus-Christ à cause des événements extérieurs. Ne nous laissons pas troubler. Vous avez vu, plusieurs, on a lu là, dans Matthieu 24, plusieurs même se laisseront troubler, seront épouvantés et commenceront à se trahir. Eh bien, nous ne devons pas faire ça. Nous sommes avertis que ça arrivera. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Alors aussi, plusieurs succomberont. Nous ne devons pas succomber. Nous ne devons pas être de ceux qui succombent. Il faut prendre cette décision. C'est la décision la plus importante qu'un chrétien puisse faire. Je ne succomberai pas. Ne quittez pas votre position en Jésus-Christ à cause des événements extérieurs qui vont se produire en 2012. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit d'amour. Ce ne sera certainement pas la fin du monde en 2012, c'est anti-biblique. Mais la terre va encore être plus secouée en 2012, ça c'est vrai. Alors mes frères et sœurs, veillez à être toujours remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, qu'ils comprennent l'importance de ce message, qu'ils saisissent combien c'est important de se consacrer, de ne pas jouer, mais de se consacrer, afin de te plaire, afin d'être trouvé avec de la lumière, avec de l'huile, au jour où tu viendras pour nous chercher à cette porte. Merci Seigneur de nous parler aussi franchement et de nous aider à comprendre ce que tu veux que nous comprenions, pour que notre comportement soit un comportement de disciple accompli. Merci Jésus. Je bénis en ton nom toute personne qui écoute ce message maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis et fortifiés et délivrez-vous de tout ce qui voudrait vous faire du tort. Gardez votre jardin intérieur, protégez-le, bouchez là où il y a des brèches, comptez sur Dieu et demandez à Dieu de l'aide pour réparer les brèches, les endroits où l'ennemi a pu se faufiler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.